Radio Barque, notre troisième, Laure Dandoc, donc co-gérante de l'abbaye de Fontfroide. Alors co-gérante veut dire que vous êtes plusieurs. Un petit mot d'explication là-dessus, Laure Dandoc.
Absolument. Bah, pour reprendre l'historique, je pense que nos auditeurs fidèles aussi de Fontfroide savent que Fontfroide a été acheté en 1908 par mon arrière-grand-père.
Donc 110 ans.
110 ans, ce qui signifie qu'aujourd'hui, nous sommes organisés en société familiale avec pas moins de 72 copropriétaires sur 5 générations.
Ah oui, quand même.
Et potentiellement, en fait, même si on intégrait tous les petits neveux, ceux qui ne sont encore pas majeurs, quasiment 200. Ça signifie effectivement que on est plusieurs. On est plusieurs à se partager un petit peu le travail. Je gère le site de l'abbaye en tant qu'on va dire gérante opérationnelle. Et j'ai un de mes cousins, qui est donc évidemment également un descendant de Gustave et de Madeleine Fayet, qui co-gère l'abbaye avec moi. Et autour de nous, une dizaine d'autres cousins qui forment un comité de gestion autour de nous pour les décisions importantes.
Oui, voilà. Donc il s'agit véritablement d'un organigramme, d'une organisation. À propos de famille, vous avez subi récemment un drame familial, justement. Mais enfin, apparemment, il semble que la famille est large et a pu assumer, en quelque sorte.
Voilà. Oh, oui, oui. La relève est là, je l'espère. Et la saison tournera sans problème.
C'est parti. Alors, Laure, voilà. Donc revenons un petit peu quand même sur cette histoire, sur cette historique. Votre grand-père ou arrière-grand-père qui achète une abbaye qui, à l'époque, était peut-être mal en point, en tout cas risquait de le devenir.
Était en très mauvais état, dirons-nous, ayant subi quelques dégradations déjà à la Révolution, et puis sur ces dernières années d'abandon, c'est-à-dire à partir du moment où les moines en sont partis en 1901, donc 7 ans d'abandon, où tout était ouvert à tout vent, je dirais. Donc de grosses restaurations au tout début du XXe siècle et qui, en fait, se sont poursuivies quasiment sans discontinuer jusqu'à aujourd'hui.
Oui, l'abbaye a 1000 ans, un peu plus, peut-être.
La fondation date de 1093.
Oui, voilà.
Grosso modo,
on est sur 1000 ans. Donc, votre aïeul achète ce bâtiment, le sauve en quelque part, on peut dire, d'une certaine façon. Et à partir de là, c'est le début d'une aventure, parce qu'après, il faut continuer, il faut suivre.
Il en faut des gérants et des co-gérants. Aux premières années, entre 1908 et 1920, on va dire, entrepris de très très gros travaux de restauration, et également des travaux d'embellissement. Et il a fait de Fontfroide à cette époque-là un lieu, on dirait, de petite villa Médicis, puisque le monument n'était pas ouvert au public. Il y recevait des amis artistes, des peintres, des musiciens, des sculpteurs, etc., Mayol, Debussy, Odilon Redon. Voilà,
c'est un endroit privé. Alors, c'est resté longtemps un endroit totalement privé.
Et cela a été ouvert au public par mon arrière-grand-mère dans les années 50.
Oui, c'est assez récent, effectivement. Et c'était un lieu donc très culturel, à la fois fermé, mais peut-être ouvert sur une certaine culture et un peu élitiste quand même, si je comprends bien.
Avec des artistes contemporains, on en a parlé tout à l'heure, qui œuvraient à cette époque-là à la décoration de l'abbaye. À l'époque, Odilon Redon, qui a décoré par exemple la bibliothèque, était un artiste contemporain, peu connu. Il l'est aujourd'hui, moins que d'autres mais symbolistes, mais voilà, à l'époque. Et Richard Burgstall, alors là, on était carrément dans l'art contemporain, puisque Richard Burgstall, maître verrier, ami de mon arrière-grand-père, avec mon arrière-grand-père, a décidé de refermer toutes ces ouvertures qui étaient béantes.
Donc il a fait les vitraux.
Et il a réalisé tous les vitraux de l'abbaye. Il y en a plus de 150.
Ah oui, alors ça, c'est effectivement quelque chose de très
important.
Et
là, c'était vraiment quelque chose d'assez avant-gardiste. Dans une abbaye cistercienne, où l'on sait que l'austérité est de mise, de prendre le parti de la couleur et de réaliser des vitraux très chatoyants, modernes, c'était vraiment un parti pris avant-gardiste. Aujourd'hui, ça ne choque personne de voir des vitraux de Soulages, par exemple, dans les églises. Mais à cette époque-là, c'était vraiment très moderne.
Oui, c'était vraiment alors avant-gardiste à tous les sens du terme. Et alors, à l'époque, au début du siècle précédent, donc, il est arrivé certaines mésaventures à certains bâtiments publics, c'est qu'ils ont été coupés en morceaux et ramenés aux États-Unis. Il paraît que ça a failli arriver à Fontfroide. Est-ce que vous confirmez ?
Je confirme tout à fait. Puisque l'abbaye a été vendue en vente aux enchères à la Bougie à Narbonne en février 1908, et le seul acquéreur potentiel qui s'était dit intéressé par cet achat était un Américain, archéologue, fou de vieilles pierres, qui avait déjà acheté une partie du cloître de Saint-Michel de Cuxa, qui avait également acheté le cloître de Saint-Guillain-le-Désert, et qui donc ne s'était pas caché du tout du fait qu'il entendait faire la même chose.
Il allait saucisser
de Fontfroide. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que mes arrière-grands-parents, qui étaient le jour même de la vente à Paris, ont surenchéri par télégramme pour acquérir Fontfroide, qu'ils connaissaient très bien, puisqu'ils résidaient à Moussan, au château de Védillan, à côté. Et enfant, Gustave Fayet allait très souvent visiter le père abbé, le père Jean de Fontfroide, qui avait une aura exceptionnelle. Donc il connaissait déjà bien les lieux.
Oui. Alors finalement, quand on parle de sauvetage, c'est un sauvetage au double sens. D'abord, on évite qu'il tombe dans les mains de cet Américain. Et puis après, il a fallu, comme vous l'expliquez, attaquer des travaux. Alors justement, c'est un monument privé, mais monument historique. Ça veut dire que dès que vous voulez toucher une pierre ou une tuile, c'est presque la tuile, si je puis dire.
Alors, ce n'est pas la tuile, parce que nous sommes très soucieux de la qualité des travaux qu'on mène.
Donc, et on est très encadré.
Et nous avons d'excellentes relations avec la DRAC Occitanie et l'ABF. Mais effectivement, ce sont des contraintes importantes. On ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas appel à n'importe quelle entreprise. Il y a un surcoût qui est évident, qui est lié tout simplement à l'intervention d'un architecte des monuments historiques, ACMH, et d'entreprises qui sont très spécialisées sur ce type d'ouvrage, des tailleurs de pierre qui sont en général des compagnons du Tour de France. Mais l'État aide au titre de la fiscalité des monuments historiques.
À quelle hauteur ?
Tout à fait particulière.
À quelle hauteur l'État est-il ?
À hauteur de 50% du montant des travaux.
Toujours. C'est la règle.
C'est la loi.
Donc vous devez financer les 50% qui restent. Sans entrer trop dans les chiffres, mais la moindre tranche de travaux s'élève à combien ?
Alors, pour vous donner une moyenne, sur les 15 dernières années, la dépense monument historique de travaux à Fontfroide, c'est 300 000 euros par an.
Voilà. Bon, 300 000 euros, donc, dont 150 000 à votre charge.
C'est ça.
Voilà. Donc ça donne une idée de l'argent qu'il faut rentrer. Et c'est la raison, peut-être, probablement et sûrement, pour laquelle, à un moment, ce monument a été ouvert au public, puisqu'il faut évidemment rentrer de l'argent pour pouvoir réinvestir ensuite.
Il faut trouver l'équilibre économique qui permette de maintenir ce bâtiment en état, parce que sans travaux, il faudrait le visiter après avec un casque de chantier. C'est tous les jours qu'on se rend compte qu'on a des voûtes qui partent en décompression, qu'on a des pierres qui tombent, etc. Donc ça demande un entretien, un suivi régulier, enfin journalier.
Alors chacun le sait aujourd'hui, quand on habite en Narbonnaise, l'abbaye de Fontfroide fait partie des monuments les plus importants, les plus prestigieux, mais aussi, je crois, parmi les plus visités. Donc, de ce point de vue-là, le pari, même si c'est un pari à tenir chaque jour, il est en bonne voie.
Il est en bonne voie. Et je pense qu'au niveau du territoire, le tourisme est vraiment quelque chose qui est un axe de développement majeur pour la région, le département, la commune. Et donc la communication qui est faite autour de la destination de la Narbonnaise et plus largement de l'Occitanie est vraiment quelque chose qui nous porte dans un élan collectif, on dirait.
Oui. Il y a, à propos d'Occitanie, de région, il y a un projet de classement parmi les grands sites touristiques d'Occitanie, je crois.
Alors, à l'initiative de l'abbaye, je peux quand même le dire, nous avons sollicité le Grand Narbonne et la ville de Narbonne pour pouvoir répondre à l'appel à projet Grand Site d'Occitanie. L'appel à projet devait être rendu le 31 janvier. Nous sommes arrivés, ce qui n'est pas anodin, on peut le noter, à mettre autour de la table toutes les instances politiques, Grand Narbonne, Ville de Narbonne, avec le soutien également du Parc naturel régional et l'abbaye de Fontfroide, pour déposer ce projet qui est un projet voilà, à rayonnement territorial. Et derrière, évidemment, avec un soutien financier de la région et de l'Europe, lorsqu'il y aura des dossiers, des projets qui seront portés devant la région pour le développement touristique de ce grand site d'Occitanie. La commission à la région doit se tenir exactement dans un mois, je crois que c'est le 14 avril, et nous saurons alors si cette candidature est retenue.
Et qu'est-ce que ça peut apporter ? Pour la suite, renforcer la notoriété, bien sûr, le prestige et l'affluence.
Il y a aujourd'hui 17 sites, si je ne dis pas de bêtises, qui sont labellisés grands sites d'Occitanie. Donc il y en aura donc quelques-uns de plus à la prochaine, au passage de la prochaine commission. C'est évidemment un élément de notoriété de communication fort pour l'attractivité du territoire. Et ce que je disais juste précédemment, des financements de projets derrière.
Oui, voilà. Lord Andoc, vous avez évoqué le PNR, le Parc naturel régional de la Narbonnaise. On sait que Fontfroide, c'est une abbaye, mais c'est aussi un massif qui est aussi prestigieux et particulier. Quel est l'apport du PNR, je ne sais pas sur l'abbaye, mais en tout cas sur l'environnement, sur le massif?
Alors nous travaillons depuis assez longtemps, mais de manière, on va dire, rapprochée avec le PNR. D'ailleurs, je pense que les auditeurs ont dû voir passer dans la presse hier la sortie de la nouvelle application du PNR que nous avons travaillé conjointement avec l'abbaye, qui s'appelle Fontfroide Insolite.
Alors, une application téléphonique, décrivez-nous ça.
C'est une application gratuite qui est téléchargeable sur les stores et qui a été faite dans la série de l'application qui est sortie il y a, je crois, un an et demi sur la CLAP, pour faire découvrir aux visiteurs et aux habitants de notre région le massif de Fontfroide dans sa globalité, pas que Fontfroide, donc les villages alentours, les Aulieux, Bizanet, tous les villages Boutenac, etc. Donc c'est une application qui se télécharge, qui permet de découvrir des points d'intérêt avec des interviews de spécialistes sur différents sujets, sur la faune, sur la flore, sur la défense incendie, par exemple, sur des éléments architecturaux particuliers, et qui permet aussi, en géolocalisation, de faire des boucles de balades sur tout ce territoire.
Voilà. Alors l'insolite, il y en a encore de l'insolite à découvrir ?
À Fontfroide, ben, y a des lieux, je pense, que les visiteurs ne voient pas nécessairement parce qu'ils sont un petit peu à l'écart. Il y a, dans cette application, vous irez voir, par exemple, la chapelle du Père Jean. La chapelle du Père Jean est une chapelle qui a été construite dans les années 1895, après la mort du dernier père abbé de Fontfroide, qui est derrière le chevet de l'église, en fait, à laquelle on accédait par une passerelle qui passe par-dessus le torrent. Cette passerelle, elle n'existe plus depuis très longtemps. Je pense qu'elle a été embarquée par une crue ou démontée, on ne sait pas très bien. Donc on parle de cette chapelle et de la vie de ce personnage tout à fait particulier du Père Jean dans cette application. Et du coup, actuellement, nous venons de lancer à Fontfroide une étude architecturale pour remettre en place cette passerelle pour que les fidèles qui viennent encore de temps en temps puissent accéder à nouveau à cette chapelle.
Voilà, alors le Père Jean revisité et ressuscité en quelque sorte. Alors Lord Andoc, on l'a évoqué, pour faire vivre un bâtiment historique et un tel monument, il faut de l'argent, il faut faire venir des visiteurs qui viennent visiter, bien sûr, le bâtiment en lui-même, mais vous faites aussi, vous organisez assez régulièrement tout un tas d'autres manifestations qui n'ont rien à voir avec l'abbaye, si je puis dire, sinon le lieu.
Absolument. Nous avons ouvert l'abbaye à des manifestations grand public, des événementiels sur des week-ends, comme par exemple le premier week-end du mois de mai depuis longtemps maintenant, puisque ça doit faire la 13e année, la fête des plantes et du massif, qui est une manifestation qui s'adresse en fait aux gens qui habitent sur notre territoire, qui connaissent Fontfroide, qui l'ont visité, mais qui ont là une occasion de revenir dans un contexte particulier pour profiter du lieu, bien sûr, et aussi pour s'approvisionner en plantes, voir des exposants de qualité, des horticulteurs, des pépiniéristes, et s'occuper de leur jardin, puisque c'est le bon moment à cette époque-là.
Oui, alors voilà une manifestation particulièrement prestigieuse. Y en a-t-il d'autres ?
Dans la thématique des plantes, il y en a d'autres.
Il y a les orchidées.
Il y a les orchidées, voilà, en automne. Mais je soulignerai particulièrement le festival de l'été, le festival musique et histoire pour un dialogue interculturel, donc avec Jordi Saval. Là aussi, c'est un festival qui commence à avoir sa notoriété. Il a 13 ans et chaque année, donc, nous donnons 10 concerts de fin d'après-midi et de soirée sur 5 jours. Et là, on s'adresse à un public évidemment d'amateurs de musique ancienne, mais pas que, parce que Jordi Saval a une palette extrêmement large, puisqu'il va de la musique du Moyen-Âge jusqu'à la musique baroque. Donc il y en a, on va dire, pour tous les goûts. Et il a fondé l'année dernière un groupe, un nouveau groupe, avec des musiciens réfugiés.
Réfugiés d'où ?
Eh bien, des réfugiés du bassin de Syrie, d'Iran.
D'Orient, du Moyen-Orient.
Voilà, du Moyen-Orient, qui sont arrivés très, très récemment sur le territoire et que Jordi Saval a coaché, a pris sous son aile, on va dire, fait travailler. Et voilà, et aujourd'hui, donc, qui vont se produire à Fontfroide cette année dans un grand concert.
Bon, donc c'est assez original, justement, et insolite, là, pour reprendre le mot, cet orchestre de réfugiés, notamment syriens. Alors la musique, évidemment, ça fait partie de la palette, si je puis dire, parce qu'il y a des lieux dans cette abbaye qui ont une acoustique fort, fort intéressante.
L'église, elle a été faite pour ça, je dirais.
Oui, bon, déjà comme
bien
la
entendu,
plupart des églises.
Pour le chant cistercien. On a d'ailleurs cette semaine tout le chœur grégorien de Paris qui est en résidence à Fontfroide et qui donnera un concert le 1er avril, le dimanche de Pâques. Oui, l'église, voilà, elle résonne du chant grégorien extrêmement bien. On a à peu près 8 secondes de réverbération dans l'église.
8 secondes.
Alors, pour certains instruments, ça ne convient pas, en revanche.
C'est trop.
Voilà. Et sinon, oui, bon, le réfectoire des converts, la grande salle qui est au rez-de-chaussée, est un endroit dans lequel on fait aussi beaucoup de concerts.
Et il fut un temps, peut-être un temps qui n'est pas révolu d'ailleurs, où on enregistrait des disques à Fontfroide.
Ça a été effectivement le cas avec un grand pianiste qui s'appelle Jean-Bernard Pommier, qui a, par exemple, enregistré toute l'intégrale des sonates de Bach à Fontfroide. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque les enregistrements in situ ont travaillé à l'époque avec la maison Erato, qui n'existe plus d'ailleurs. Les enregistrements in situ ne se font plus beaucoup. Jordi Saval, en revanche, lui, pendant le festival, fait des captations. Ce qui lui permet de sortir ses disques.
Voilà. Donc, l'avenir, pour la co-gérante que vous êtes, Laure Dandoc, c'est ce quotidien-là, c'est toutes ces manifestations. C'est, rappelons-le donc, la technologie de l'Internet et du téléphone mobile. Donc, des applications, il y en a d'autres, je crois, également.
Il y a une application de visite, tout simplement, aussi, que les gens prennent lorsqu'ils arrivent sur le site. Une application numérique avec de l'audio, évidemment, et puis des médias complémentaires, vidéo, iconographique, etc., dans des versions assez variées maintenant, puisqu'on a une version adulte en 6 langues, une version enfant, et une version pour les personnes à mobilité réduite. Et notre objectif est de développer ces versions. Le numérique nous le permet aujourd'hui. Ces nouvelles technologies, pour ça, sont formidables. De développer des versions qui s'adaptent à tous les handicaps. Donc le handicap visuel, le handicap moteur, etc.
Voilà. Une toute dernière question, Laure Dandoc. C'est un petit peu à la mode, mais c'est probablement utile et rationnel. Lorsque des gens visitent un monument, on aime bien les renvoyer vers un autre monument, bâtir en quelque sorte des périples logiques les uns par rapport aux autres. Est-ce que c'est le cas, par exemple, quelqu'un qui sort de Fonfroide, est-ce que vous le dirigez plutôt vers tel ou tel autre lieu?
Alors, je dirais qu'il y a des espèces de passerelles un petit peu naturelles qui se font, notamment avec l'abbaye de la Grâce, puisqu'on a là affaire à deux abbayes, mais qui en fait sont très différentes l'une de l'autre et donc complémentaires. Donc, je pense que c'est intéressant de visiter les deux. Et puis après, nous avons des partenariats plus formels, puisque ça donne lieu, par exemple, à des billets jumelés, tout simplement. Donc, nous avons un billet jumelé avec la cité de Carcassonne, un billet jumelé avec le fort de Sals, par exemple.
Ah, voilà. Donc, on est tout à fait dans la mutualisation, en quelque sorte, de la visite des monuments. Eh bien, merci, Laure Dandoc, pour toutes ces explications. Donc, en tant que co-gérante de ce monument prestigieux, qui va peut-être devenir un jour un grand monument d'Occitanie, on l'apprendra dans quelques semaines. En tout cas, merci pour toutes ces explications. Prochaine invitée au féminin également, puisqu'il s'agira de Madame Maryse Arditi, avec laquelle, évidemment, nous changerons un peu de sujet. Nous parlerons d'écologie et d'environnement. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.